Le parc naturel régional d'Armorique et l'Office français de la biodiversité avaient lancé en juin une série de rencontres, les Journées de la Rade. La deuxième a eu lieu dimanche et c'était l'occasion de découvrir tous ces milieux exceptionnels de la Rade de Brest qu'on ne connaît pas forcément. Les champs de blocs par exemple, les herbiers de Zoster ou alors les fonds parsemés de merles. Mais pour protéger ces milieux fragiles, il faut adapter les activités humaines, et oui, et notamment la plaisance. Alors d'abord, les bateaux eux-mêmes, qui sont souvent en matière plastique très difficile à recycler quand ils sont en fin de vie. Or, il y a une jeune entreprise de Camaret, Organic Boats, qui travaille depuis 2 ans à la fabrication d'un bateau totalement écologique. Julien Gracieux, son fondateur, nous explique.
Pour moi, c'est un bateau 100% en matériaux naturels. Donc là, c'est une conception nouvelle d'un petit bateau inspiré de bateaux exotiques, indonésiens là, dans la forme. Et j'ai utilisé uniquement du bois, du bambou et de la toile de lin pour le construire. Et il n'y a pas de traitement chimique ou de colle chimique pour les assemblages. C'est 100% naturel.
Comment on le rend étanche, par exemple ?
Là, j'utilise de la toile de lin qui est déjà tissée très serrée, très épaisse, très serrée. Et j'applique de la cire d'abeille, de l'huile de lin et de l'huile de cad. Un mélange de ces trois produits.
C'est quoi l'huile de cad ?
C'est l'huile de genévrier. C'est fabriqué avec le bois de genévrier dans le sud de la France.
Et les bois qui constituent le bateau, le mât, donc il y a du bambou. Et c'est quoi sinon les bois ?
Alors j'utilise du bambou, du tuya et du douglas, les trois essences. Alors qu'est-ce que c'est un bateau organique ? C'est en naturel et aussi avec des matériaux trouvés localement.
C'est la question que j'allais poser.
Voilà, il y a tout un ensemble en fait. C'est être dans une éthique la plus irréprochable au niveau écologique et durabilité, et dans le développement durable quoi.
Alors tuya, ok, il y en a dans le coin. Le bambou, alors est-ce qu'il y a suffisamment de bambouseraies dans le Finistère ou pas trop loin ?
Alors justement, on en trouve quand même. Là, les premiers bambous que j'ai testés, je les ai trouvés à Ergué-Gabéric, à côté de Quimper. Ensuite, je suis allé farfouiller dans le sud de la France. Les fournisseurs officiels en France, ils sont, y en a qu'un en fait, c'est à la bambouseraie d'Anduze, à Nîmes. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à développer une filière bambou en matériaux de construction. Même en Bretagne, ça pousse très bien.
Ouais, parce que c'est quoi ses avantages à ce bois ?
Il est très résistant au milieu, à l'humidité. Il pousse rapidement, très renouvelable du coup, assez rapidement. Voilà, c'est les deux avantages essentiels et très léger aussi.
Vous avez fait combien de tests avant de choisir définitivement les matériaux, la forme du bateau, vous en aviez une idée peut-être, mais...
Ça s'est fait dans le long terme, hein. Ça fait quelques années là, que je suis sur ce projet. Alors du coup, c'est en tâtonnant petit à petit au niveau des... Voilà, j'ai testé plusieurs essences. Là, le premier, j'ai fait en cyprès. La coque est quand même sur celui-ci, le premier prototype. C'est du cyprès pour le fond. Le second, je le fais en tuya. Je suis en train de tester du peuplier aussi pour avoir une essence vraiment qui est endémique, qui pousse localement. Donc je suis encore dans cette phase de recherche et de développement, test des matériaux. Là, je vais travailler avec l'ENSTA, l'école d'ingénieurs de Brest, pour faire vraiment des caractérisations des matériaux avec tous les batteries de test, avec des machines pour avoir des données quantifiées, pour comparer les matériaux en fonction de leur origine, leur durée de séchage pour les bambous, enfin comment on traite, comment on prépare le bambou pour l'utiliser. Voilà, donc il y a tout ce travail encore de développement, là je suis encore là-dessus, et le prototypage, après ça aboutit à la déclaration, enfin l'homologation aux affaires maritimes, donc je pense pouvoir faire avec la version 2 de ce prototype l'année prochaine.
Ah oui, donc on n'est pas encore, là bon, moi je vois un film où le bateau avance très bien, mais on n'est pas encore sur un bateau qui peut pour l'instant être vendu.
Non, je ne suis pas encore dans la phase commercialisation, là je suis encore sur le prototypage pour le bateau fini, quoi, taille réelle. J'ai commencé des ateliers aussi avec des personnes intéressées et des enfants pour faire des constructions de maquettes qui peuvent leur permettre d'aborder un peu le travail des matériaux naturels, l'utilisation des outils manuels. Et il y a un enfant notamment, on a un projet de construction d'un optimiste où je suis encore dans le prototype de faire un optimiste en version organique. Donc là, c'est ce qu'on est en train de développer justement avec l'ENSTA et avec cette famille avec qui je fais ces ateliers.
Et est-ce qu'on peut revenir juste sur la forme du bateau ? Donc c'est un bateau traditionnel qui existe, qui est utilisé par des pêcheurs ou
Là, le premier bateau, là, le palato, moi je l'ai appelé le palato, ça veut dire balancier dans une langue d'Indonésie. C'est une forme, c'est inspiré du sandek, qui est un bateau traditionnel du centre de l'Indonésie qui sert à la pêche et au transport de marchandises, de personnes.
Il est assez grand d'ailleurs, il fait combien de mètres ?
Le Sandec d'origine, c'est une dizaine de mètres à peu près.
Ouais. Il est un peu plus petit celui que vous avez fait. Non
voilà, moi j'ai fait la version taille réduite pour la plaisance, quoi que ça reste un bateau de balade en mer, en fait, transportable, facile à entretenir et assez léger, quoi.
Ouais, parce que ce que vous visez comme public, c'est les plaisanciers, enfin les ou les écoles de voile peut-être.
Ouais, c'est ça exactement. Et puis les particuliers qui veulent vraiment la voile légère, facile. Qu'il soit facile d'accès, quoi, qu'il soit pas trop contraignante, pas trop cher aussi pour le stockage du bateau, les places au port, enfin voilà.
Et en termes de construction, enfin quand le modèle commercial sortira, vous avez une idée de son prix
C'est un petit peu tôt pour fixer un prix. Moi, j'estime à 6 000-7 000 euros le prix de lancement, mais ça va être vraiment à voir en fonction de la quantité de commandes et de comment ça se met en place.
Ouais, enfin, ça paraît pas délirant, quoi. C'est pas vraiment plus cher qu'un bateau en plastique, en époxy.
Ah, c'est même moins cher que certains bateaux de la même taille. Un petit trimaran de course de chez Hobby, ça peut dépasser largement ce budget, quoi.
Et en termes de sécurité, ça sera pareil, quoi.
Bah, je ferai en sorte d'avoir tous les critères de sécurité qui soient respectés pour que ce soit homologué aux affaires maritimes, de toute manière, quoi.
Alors, bien sûr, on vous tiendra au courant. Alors, quand on a son bateau écologique, où le met-on ? Eh bien, parfois, on fabrique un mouillage avec un corps mort et une chaîne. Le problème, c'est que tout ça abîme les fonds marins. Or, voici Alpha Eco, une entreprise qui travaille cette fois avec la commune de Roscanvel pour proposer des mouillages écologiques. C'est Nicolas Samza qui va nous présenter son produit.
On a inventé un dispositif qui permet d'améliorer de manière globale le concept même du mouillage. Et l'aspect écologique est un des aspects qu'on a cherché à améliorer par rapport à une solution sur chaîne, qui ont pour principal défaut d'impacter le fond en arrachant, tapant, cassant tout ce qui est dans le rayon autour de leur point d'ancrage.
Et en raie de braise, ça veut dire par exemple quoi ? Qu'est-ce qu'on arrache sans faire exprès ?
Bien, par exemple, on arrache des herbiers ou bien on casse du merle.
Non, mais le merle, c'est quoi ? C'est une algue qui produit une petite structure solide qui ressemble à du corail, en fait.
Alors, oui, c'est ça. C'est une algue calcaire qui est rose. Et quand on se met à mettre la main dedans, on se rend compte qu'il y a plein de petites bestioles différentes dans tous les sens. Et donc, c'est un habitat très important et à la fois fragile. Parce que, comme c'est une algue, elle a besoin de lumière et surtout de ne pas se faire jeter, enfoncer et projeter par une chaîne qui à chaque mouvement de petite vague passe par là, quoi.
Alors présentez-moi l'encre que vous avez inventée.
La partie sol, en fait, ça correspond à une grande barre d'acier qu'on va enfoncer dans le sol et avec laquelle on va aller chercher le terrain dur. Donc le terrain dur, il peut se trouver très profondément, par exemple à Roscanvel, il est à 6 mètres sous la vase. Donc quand vous arrivez à 6 mètres, enfin vous arrivez dans un sol dur dans lequel vous pouvez espérer tenir quelque chose. Donc on a rentré ensuite la tige jusqu'à 2 mètres dans le sol dur, donc on est arrivé jusqu'à 8 mètres de fond. Et ensuite, on utilise pour bloquer l'ensemble un ciment naturel à base d'argile et de chaux qu'on injecte et qui vient figer la colonne, la barre, dans le sol en se mélangeant un petit peu au sol.
Donc ça remplace le corps mort, en gros.
Ça remplace le corps mort, exactement. Et en utilisant grosso modo un dixième de la masse d'acier et de ciment, on arrive à un effet qui peut être jusqu'à 10 fois supérieur.
Voilà. Ouais. En solidité, quoi.
En solidité, ouais. En résistance à la traction, c'est ça.
Alors que comme c'est une tige, bah, ça n'occupe que quelques centimètres carrés, en fait, quoi, c'est ça.
C'est ça. Et l'impact, donc, finalement, sur le fond réel, on a un trou de diamètre comme pour une balle de golf, à peu près, comme un trou de green qu'on fait dans le sol. Par contre, on va jusqu'à 8 mètres, mais c'est pas la vie est concentrée en surface. Voilà.
Et alors, quand on a posé cette tige, quand on a planté plutôt cette tige, qu'est-ce qu'on ajoute ensuite ?
Alors, la chaîne a quand même des avantages. C'est que par sa masse, elle permet un certain effet d'amortissement pour les bateaux qui évite d'arriver au choc trop vite au niveau de l'étrave et donc de casser les bateaux, de casser les amarres. Donc pour compenser cette masse, on utilise un caoutchouc, tout simplement. Du caoutchouc naturel, le plus pur possible, de très bonne qualité, qui est assemblé de manière spécifique. C'est là tout l'intérêt, toute la difficulté, c'est d'arriver à faire des terminaisons solides sur ce morceau de caoutchouc, qui donc a une longueur déterminée et qui aura une capacité d'absorption d'énergie qui sera indépendante de la hauteur d'eau, de la marée ou de ce qu'il y a derrière.
Parce que c'est élastique, en fait, quoi.
Parce que c'est un élastique, c'est visco-élastique même, c'est-à-dire que ça absorbe de l'énergie, ça la dissipe sous forme de chaleur, aussi en même temps que ça l'emmagasine pour la restituer comme un élastique classique. Voilà.
Et donc la bouée, elle
Alors la bouée, elle est reliée par un bout qui, entre ce caoutchouc et la surface, bon là ça peut être quelque chose de connu, de classique, ou quelque chose de plus innovant quand on cherche à améliorer les choses, mais c'est quelque chose qui ne traîne pas au fond et qui n'a pas de poids, ou très très peu, c'est-à-dire qui sera portable par un enfant de 3 ans. Voilà. Et donc ça permet de limiter fortement l'impact à la fois à la production, mais surtout l'impact sur site.
Donc il ne vous reste plus finalement qu'à inventer l'encre qui ne va pas abîmer le sol.
Bah alors ça, c'est effectivement, c'est pas, on ne peut pas l'exploiter sur une encre parce qu'une encre a besoin d'une traction horizontale pour fonctionner. Et donc il faut de la masse. Pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux que le poids pour les encres mobiles, ouais, effectivement.
Et sinon, ce dispositif, est-ce que c'est beaucoup plus cher qu'un dispositif classique pour le mouillage, enfin...
Alors, la matière première n'est pas plus chère, même moins chère qu'un dispositif classique acier. Par contre, il y a beaucoup plus de sophistication à la pose, à la fabrication, à la production. Et donc, c'est plus technique. Et c'est vrai que ça, bah, ça, on a été obligé de développer un savoir-faire qui n'existait nulle part. Et c'est un peu une façon aussi de réimporter localement la main-d'œuvre, parce que finalement, on ne peut pas le sous-traiter en Asie ou quoi que ce soit. C'est fait chez nous, localement.
Voilà. C'est vous qui posez, en fait ?
Pour l'instant, oui. Mais après, à terme, une fois que le processus sera bien maîtrisé, je pourrais laisser n'importe qui, des gens compétents avec des diplômes, bien sûr, mais le faire, il n'y aura pas de souci.
Et quel est le rôle de la commune de Roscanvel dans tout ça ?
Alors, la commune de Roscanvel a été la première commune à m'avoir fait confiance. Et c'est surtout la première commune que je connaisse pour laquelle ça a vraiment un intérêt complet. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec de la chance, comme d'habitude. Il y avait des mouillages à remplacer et en plus un fond remarquable. Voilà. Donc personnellement, j'ignorais la valeur. La première fois que j'ai plongé dessus, je revenais de Corse. Je me dis, oh, il y a du corail rouge ici aussi, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, ce n'est pas du corail, c'est du merle. Donc c'est pas carnivore, c'est une algue. Donc ça fait de la photosynthèse. Et ce qui est chouette, c'est que en fait, ça se retrouve que dans des endroits qui sont forcément jolis, parce qu'il faut le clair. Donc là, je suis en train de développer un ensemble qu'on va me demander d'installer que dans des beaux endroits. Donc c'est finalement, c'est pas mal du tout.